Bonjour et bienvenue dans l'émission Pays de Carcassonne. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous allez découvrir le nouvel administrateur du Centre des Monuments Nationaux pour la cité de Carcassonne en la personne d'Edouard Delemelet. Bonjour Edouard.
Bonjour.
Alors, vous êtes arrivé il y a peu de temps, parce que c'était en septembre, donc à peine 3 mois. Et donc, quel était votre parcours? Vous arrivez d'où, en bref?
Donc, avant d'arriver à Carcassonne début septembre, je travaillais déjà comme administrateur pour le Centre des Monuments Nationaux, en m'occupant des monuments nationaux du Berry, donc c'est-à-dire des départements du Cher et de l'Indre. Mmh. Donc, 4 monuments... qui sont le palais Jacquer, un très beau palais de la moitié du XVe siècle, construit par l'argentier de Charles VII, Jacquer, la cathédrale de Bourges, qui est un joyau inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des vitraux exceptionnels, une architecture gothique vraiment formidable, et puis 2 monuments dans l'Indre, la maison de Georges Sand à Nohant, et le château de Bouge, on dit souvent...
qui est moins connu.
Qui est très peu connu, en fait, malheureusement, puisque c'est vraiment un joyau au milieu d'un parc de 90 hectares, dessiné par les grands paysagistes de la fin du 19e, les Duchesne. C'est les grands paysagistes qui ont travaillé à la fin du 19e, la reconstitution des grands parcs à la française, en fait, et qui ont, dans l'Indre, autour de ce petit château de la fin du 18e, dont on dit souvent que c'est une sorte de Trianon en Berry, ont reconstitué un très beau parc. Et les derniers propriétaires, qui étaient les propriétaires et directeurs généraux du BHV à Paris, qui avaient racheté ce bâtiment au début du XXe siècle, on avait fait un lieu de villégiature, un lieu de chasse, et avaient rassemblé une très belle collection de mobilier 18e, un petit peu à l'image de ce qu'avaient fait aussi les Cognac G ou à Paris, en fait. Les Viguiers, les époux Viguiers qui n'avaient pas de descendants ont légué ce monument à la Caisse des Monuments Historiques et des Sites, aujourd'hui Centre des Monuments Nationaux, qui en assure la gestion. Mais c'est vrai que c'est, comme vous dites, c'est un monument trop méconnu.
Eh oui, bon, c'est sûr que par rapport à Bourges ou Jacquer ou la maison de Georges Sand, voilà, bon, ça nous parle plus.
Mais en fait, c'est un petit peu peut-être la spécificité du Centre des Monuments Nationaux, c'est-à-dire que c'est la gestion il y a à peu près une centaine de monuments qui sont gérés par le Centre des Monuments Nationaux, dans lesquels on va trouver des monuments
incontournables
comme le Mont-Saint-Michel, comme la cité de Carcassonne, comme l'Arc de Triomphe, comme la Sainte-Chapelle, comme voilà, ce genre de monuments que tout le monde connaît, et avec énormément de visiteurs, et puis des monuments beaucoup moins connus, ou qui attirent beaucoup moins de visiteurs, comme la colonne de Vimy, comme donc le château de Bouges, comme un certain nombre de petits châteaux en Auvergne qui sont peu visités, mais finalement le Centre des Monuments Nationaux assure la gestion de cet ensemble et ce qu'on appelle la péréquation au sein de notre établissement permet que les grands monuments qui ont beaucoup de visiteurs permettent de financer l'entretien, la restauration et l'ouverture des petits monuments moins connus qui ont beaucoup moins de visiteurs.
Oui, puis ça permet de faire le lien aussi entre ces grands monuments très, très connus et puis entre ces monuments peu connus. Je pense que quand on vient visiter bien la maison Jacquer, effectivement, si on nous dit qu'il y a un château à côté, etc., ben voilà, donc ça draine aussi la clientèle et c'est bien que ce soit une mission publique, on va dire.
Oui, puis c'est vrai qu'il y a cette idée de synergie entre les monuments. D'ailleurs, pas seulement entre les monuments du Centre des Monuments Nationaux. C'est vrai que on a les monuments les plus connus qui attirent le plus de visiteurs. Ça nous permet, dans ces monuments-là, de faire une communication pour des monuments qui soient appartenant au Centre des Monuments Nationaux, mais aussi des monuments qui appartiennent à des collectivités locales, à des conseils généraux, à des mairies, voire à des particuliers, à des privés, et de renvoyer aussi vers les autres monuments, puisque nous, au Centre des Monuments Nationaux, on est donc le président du Centre des Monuments Nationaux est très sensibilisé à cette responsabilité qui est celle des monuments nationaux vis-à-vis du territoire et vis-à-vis du développement touristique dans les territoires.
Oui, c'est ce qu'on appelle le transfert de flux touristique. Voilà. Comment mieux répartir cette richesse. Et alors, avant cette belle région, vous étiez où? Vous étiez déjà au Centre des Monuments Nationaux?
Alors non, pas du tout, parce que Parce que donc avant d'arriver donc en Berry, j'ai été 5 ans en Russie pour le ministère des Affaires étrangères. Donc d'abord pendant 2 ans comme attaché culturel dans l'Oural, une région immense qui va de la mer Arctique jusqu'à la grande plaine kazakh en fait, et qui s'étend de la Russie européenne, c'est-à-dire au-delà de l'Oural, avec la Bashkirie, dont j'avais la responsabilité, ou Bashkirie ou Bashkortostan, jusque début de la Sibérie, je dirais, avec la ville historique que on connaît souvent à travers le roman de Jules Verne, Michel Strogoff, la ville de Tobolsk, Tobolsk, Tumen, donc c'est des villes qui sont citées dans le roman de Jules Verne. Donc j'avais cet immense territoire, donc comme attaché culturel, directeur de l'Alliance française dans la ville d'Ekaterinbourg, une grande ville industrielle d'un million et demi d'habitants, qui est plus connue pour être la ville où la famille impériale, le dernier tsar et sa famille ont été assassinés en fait dans cette ville. Et donc avec cette mission de promouvoir la langue française, promouvoir la culture, les artistes français, la création française, promouvoir aussi l'université, les universités françaises, c'est-à-dire promouvoir les études en France, puisqu'il y a, je dirais aujourd'hui, une sorte de concurrence entre les grands pays européens et occidentaux pour attirer les meilleurs étudiants dans ces universités. Donc nous, la France, le ministère des Affaires étrangères, a mis en place une structure qui invite les étudiants à venir poursuivre une année ou 2 années universitaires dans les grandes universités françaises.
D'accord.
Et puis, à l'issue de 2 années dans l'Oural, j'ai été nommé comme attaché culturel pour le nord-ouest de la Russie et directeur de l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Et là, donc, j'étais dans cette deuxième capitale de la Russie, cette capitale du Nord, comme l'appellent les Russes, pendant 3 ans. Donc une ville, comme vous savez, une ville exceptionnelle par son architecture et puis aussi par la richesse de sa vie culturelle en fait, puisque c'est bien qu'elle ne soit plus aujourd'hui la capitale, elle conserve des grandes institutions de capitale comme le musée de l'Ermitage, qui est un musée absolument extraordinaire, d'une richesse inouïe. Le théâtre Mariinsky, que souvent on connaît mieux en France sous le nom du Kirov, parce que c'était le nom pendant la période soviétique. Et donc avec son chef d'orchestre mythique, Valéry Gergiev, qui est vraiment un des plus grands chefs de la planète, en fait. Et l'école exceptionnelle du ballet classique, puisque c'est, je pense que la Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg, même particulièrement Saint-Pétersbourg, c'est aussi une grande ville de danse classique.
Ouais, c'est l'image qu'on en a. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait revenir en France? Et particulièrement au Centre des Monuments Nationaux, si on n'est pas indiscret, les auditeurs et moi.
En fait, les missions qu'on exerce pour le ministère des Affaires étrangères dans ces établissements culturels à l'étranger, donc Institut français, Alliance française, ce sont des missions qui durent un certain temps.
D'accord.
Généralement, au bout d'un certain nombre d'années, le ministère des Affaires étrangères souhaite que l'on rentre en France et que à ce moment-là on passe quelques années en France avant de pouvoir éventuellement repartir pour une mission à l'étranger. C'est aussi pour que les responsables de ces établissements culturels ne soient pas complètement déconnectés de la vie culturelle, la vie intellectuelle, la vie artistique française, parce que c'est vrai que on est on reste attentif à ce qui se passe en France. On est quand même un petit peu coupé de la création. On n'a pas la possibilité de voir autant les spectacles, de suivre autant l'actualité artistique. Et donc c'est bien de revenir à un moment donné en France.
Puis on le voit de toute façon avec les gens qui partent longtemps à l'étranger. C'est difficile après de se refaire aussi à la vie française. Donc c'est, effectivement, je pense que c'est une bonne chose de dire bon allez, tous les 4 ans, vous revenez un peu en France,
ça,
histoire
que...
de pas couper trop longtemps.
Mais ça, c'est vrai que c'est toujours une difficulté du retour, en fait. Peut-être, peut-être parce que la confrontation à une autre culture, à une autre à un autre mode de vie, d'autres centres d'intérêt, d'autres. C'est à la fois une forme d'ouverture à de nouveaux horizons, à des nouveaux modes de pensée. Et peut-être que après, quand on rentre, il y a un temps de réadaptation.
Oui, voilà. Je pense que c'est pas si évident que ça. Et alors, comment ça s'est passé, votre mutation à Carcassonne? C'est imposé ou c'est vous qui demandez à partir, ou vous pouvez choisir ou pas?
ça se fait dans une discussion entre le président du Centre des Monuments Nationaux et en l'espèce, donc avec moi, comme mon prédécesseur Jean Dodelin, que oui. Vous avez accueilli, je crois.
Tout à fait.
Donc Jean Dodelin a été nommé comme administrateur de Saint-Cloud, du parc de Saint-Cloud. Donc il fallait le remplacer. Et le président du Centre des Monuments Nationaux m'a proposé de venir ici à Carcassonne remplacer Jean Dodelin. Voilà, c'était après, évidemment, il n'y avait pas d'obligation de sa part, mais c'est un très beau monument. Bon, il y a donc, c'est vrai que je suis non seulement administrateur du château Comtal et des remparts de Carcassonne, mais aussi de la forteresse de Sales. Donc c'est deux très beaux monuments. Et avec des enjeux considérables pour le Centre des Monuments Nationaux, puisque c'est un des monuments les plus importants du Centre des Monuments Nationaux, mais aussi des enjeux considérables pour le territoire. Donc c'est un très beau défi. C'est un très beau défi. Voilà, c'est comme ça que je le prends. Donc c'était évidemment une belle proposition de la part du président.
Et alors, quelle était votre première impression quand vous êtes arrivé, votre premier jour à la cité? C'était quoi la première impression?
Je dois dire que je connaissais pas tellement la cité. J'avais déjà aperçu la cité, mais je peux pas dire que je connaissais la cité. Donc pour moi, c'était une découverte, une vraie découverte. Et ce qui m'a frappé, je dirais, c'est l'immensité de ce monument. Surtout l'immensité comparée finalement au monument dont j'avais la charge dans le Berry. On est vraiment dans une échelle complètement différente. Et peut-être une des premières vues qui est vraiment frappante, c'est celle que j'ai eue en prenant le pont vieux là, et donc en arrivant de la ville base, de la Bastide,
ouais, prenant le pont vieux, c'est la plus jolie vue. Ouais.
Et puis on voit cette cité qui s'étale comme ça sur cette colline. Ça c'est vraiment c'est très impressionnant.
Et puis on va en reparler par la suite. On va faire une pause musicale et puis on retrouve Edouard Lemelet pour ses coups de cœur touristiques. À tout de suite. Jolie pause musicale. Et bien, nous retrouvons Édouard Delemelay, administrateur de la cité de Carcassonne, qui va nous parler de ses coups de cœur touristiques. Donc, Édouard, coup de cœur touristique dans le monde, hormis la France.
Alors, j'ai pensé parler des îles Solovki. En fait, je dirais déjà que moi, je suis très attiré par l'Est, par l'Est de l'Europe et par la Russie. Donc, c'est ce qui explique aussi que je sois parti travailler dans ce pays. Mmh. Et lors de mon séjour à Saint-Pétersbourg, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ce lieu où je rêvais d'aller depuis très longtemps, en fait, qui se trouve...
Oui, il faut nous les situer, parce qu'à mon avis...
Sauf les îles Solovki, c'est un archipel, un petit archipel d'îles, qui se trouve en mer Blanche. Et la mer Blanche, donc, c'est une mer qui est, j'irais, très au nord de Saint-Pétersbourg, mm-hmm. Le long de la péninsule de Kola, et qui ouvre, qui se jette vers la mer Arctique, en fait.
D'accord.
Donc c'est une mer qui gèle en partie l'hiver. On est en face du port d'Arkhangelsk, qui était un des grands ports avant la construction de Saint-Pétersbourg, un des grands ports qui permettait à la Russie de commercer avec l'Europe, en fait, puisque la Russie n'avait ni port vers le sud, ni port sur la Baltique, donc elle était obligée de passer par ses bateaux étaient obligés de passer par le nord, par la péninsule de Kola. Et donc au milieu de cette mer Blanche, il y a ces petites îles sur lesquelles a été construit au XVe siècle un monastère, donc le monastère Solovietsky, donc un monastère du XVe siècle, un monastère fortifié, puisque l'île avait aussi cette fonction, en quelque sorte, d'être un espace de fortification contre une invasion qui pouvait arriver du nord, en fait, qui pouvait arriver de la mer Arctique. Et ce qui m'a beaucoup touché, en fait, de cet endroit, déjà c'est l'approche, en fait, d'un tel lieu, puisque c'est pas une approche qui doit se faire de n'importe quelle façon. Mmh. Donc on prend un train depuis Saint-Pétersbourg, on traverse toute la Carélie, donc vous avez des forêts de bouleaux et de pins, mais plutôt des bouleaux à perte de vue, disons que c'est une région qui est pratiquement pas peuplée, c'est très très peu peuplé. Et puis là on vous arrête dans une petite ville avec une petite gare complètement déglinguée, et vous pouvez prendre un bateau qui est un bateau monastique, puisque finalement l'île n'est quasiment aujourd'hui desservie que pour le monastère, et donc évidemment pour les touristes qui viennent aussi visiter le monastère, mais je dirais plutôt des pèlerins, parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui vont dans ces îles. Et puis là, vous prenez ce bateau, donc l'île est assez éloignée des côtes. Donc vous voyez absolument rien, vous voyez juste l'immensité de la mer Blanche. Et puis vous voyez, donc au départ vous voyez simplement cet horizon où vous voyez absolument rien. Et puis petit à petit vous voyez ce chapelet d'île arriver. Et puis vous voyez de très loin ce monastère fortifié avec ses bulbes. Vous voyez ces bulbes, ces bulbes en bois du 15e siècle, ou peut-être postérieur, puisque l'origine du monastère du 15e, il a été remanié au 17e siècle, au 18e siècle, évidemment. Et vous arrivez dans un petit port, tout petit port monastique de cette île, qui était aussi l'activité principale des moines au 17e, au 18e, c'était la pêcherie, c'était les salaisons. Et donc vous retrouvez ces grands baraquements en bois, des grands entrepôts en bois, et donc toute l'architecture est en bois.
D'accord.
Et vous avez juste ce monastère fortifié avec des blocs énormes, des blocs qui font plus de, je sais pas, des rochers de plus de 5 mètres de largeur, si vous voulez. Donc c'est une impression de quelque chose qu'on a vu nulle part ailleurs. Et à l'intérieur, aujourd'hui, la vie monastique a repris, avec à peu près une quarantaine de moines qui vivent dans ce lieu. Et il y a très peu d'habitants. C'est une réserve naturelle. Et puis, c'est en plus. Et le monastère a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial il y a une dizaine d'années, je pense. Donc c'est un lieu, c'est vrai, qui est vraiment hors du monde. Mmh. Il n'est pas si facile d'y accéder. Donc finalement, c'est un lieu qui reste très protégé, très protégé. C'est un lieu évidemment qui est exceptionnel, donc qui attire un certain tourisme. Mmh. Mais comme il est difficile d'accès, il reste assez protégé.
Parce qu'on met combien de temps pour y aller de Saint-Pétersbourg ?
Oh, il faut compter, je pense qu'il faut compter, si on prend le train depuis Saint-Pétersbourg, en traversant toute la Carélie, il faut compter. Moi, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait, pris un train, on avait logé sur place dans la petite ville où il y avait ce port.
D'accord.
Parce que il n'y a pas beaucoup de bateaux qui partent, qui rejoignent le port. Et après, c'est pareil pour le retour. On n'est jamais sûr qu'il y a un bateau qui reparte. Donc, il faut se présenter sur le petit port. Et là, on a les informations, plus ou moins, pour obtenir l'information.
D'accord.
Comme quoi, il y aura peut-être ce jour-là, à 16h, un bateau qui va repartir, mais c'est pas sûr, parce que ça dépend de s'il y a du monde, s'il y a pas de monde qui veut repartir, s'il y a quelque chose, ça dépend aussi de si la mer est
déchaînée. Et il y a de l'hébergement ou pas?
Il y a de l'hébergement, il y a quelques petits hôtels, très peu. Petits hôtels, petites baraques en bois, très russes, comme on peut imaginer, une sorte de grandes isbas russes,
oui.
Avec un accueil très chaleureux aussi, comme les Russes peuvent l'être.
L'accueil de Slave.
Voilà, l'accueil de Slave.
Voilà.
Et puis vous êtes avec cette lumière spéciale aussi, puisqu'on est déjà très au nord. Donc selon la saison, vous êtes déjà... Vous avez déjà des journées sans nuit quasiment. Vous avez ces nuits blanches comme on peut trouver à Saint-Pétersbourg, mais là encore plus forte puisqu'on est quand même beaucoup plus au nord que Saint-Pétersbourg.
Eh bien, joli dépaysement. Alors on va revenir en France. Coup de cœur touristique en France, hormis le Languedoc-Roussillon.
Alors là, je pensais vous parler de la Vallée Noire. Alors la Vallée Noire, qu'est-ce que c'est?
après la nuit blanche.
Parce que la Vallée Noire, c'est un lieu qui n'existe pas. Donc voilà, je voulais vous parler d'un lieu qui n'existe pas.
Qu'il faut imaginer.
Voilà. Mais c'est en fait la vallée que George Sand a imaginée dans toute sa littérature. Bah, évidemment, c'est une vallée qui repose sur une vallée existante autour de cette maison de Nohant dont j'assurais l'administration. Donc cette maison, cette maison. Vraiment chargé d'une histoire, chargé d'une atmosphère très particulière de Nohant. Et autour, toute cette campagne dans laquelle George Sand a été élevé, puisqu'elle est arrivée orpheline de père à 4 ans dans la maison de sa grand-mère, Aurore de Saxe, la petite fille du maréchal de Saxe. Et dans cette maison, future George Sand aussi, puisqu'elle avait le même prénom que sa grand-mère, donc a été élevée en jouant avec les enfants du village, et donc comme une petite paysanne, comme les autres enfants des villages, et donc elle a énormément joué dans ses campagnes, et c'est tout cet environnement, qu'elle a connu enfant, qu'elle a retranscrit en fait dans ses romans.
Et qu'on retrouve dans cette fameuse Vallée Noire.
Et qu'on retrouve dans la Vallée Noire, puisqu'on retrouve tous les lieux qui sont
la Marodiable,
tout ça, voilà. Puisque vous savez aussi, c'est vrai que le Berry, c'est un peu la région des sorciers,
C'est l'image un peu qu'on en a, oui, quand on pense à la Marodiable.
Oui,
c'est un peu cette ambiance-là.
C'est cette ambiance-là qui est l'ambiance de George Sand, qui est l'ambiance de qu'on retrouve dans La Petite Fadette, qu'on retrouve dans Les Maîtres Sonneurs, dans la plupart des grands romans de George Sand qui se situent dans ce territoire. Et donc, George Sand a recréé un espace, une sorte d'unité d'espace en fait. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une région qui moi m'a beaucoup séduit quand j'y ai passé.
C'est une région qui vous a passionné.
J'y ai passé un an et demi et ça m'a beaucoup séduit. Et je dirais cette maison de Nohant qui attire des visiteurs du monde entier. On a des Japonais, on a des évidemment. C'est aussi la maison dans laquelle George Sand a accueilli tous les grands artistes de son époque. Chopin, il a composé la moitié de son œuvre. Il est passé 7 étés. Liszt est venu. Il est venu avec Marie Dagout. Delacroix y a peint dans un atelier que Georges Sand lui avait aménagé. Flaubert est venu, Balzac a passé, raconte qu'il a passé des soirées avec Georges Sand à refaire la vie littéraire de l'époque, où il se couchait à point d'heure pour discuter de la vie littéraire de leur époque. Et on pourrait citer encore Dumas fils, Théophile Gautier. Bon, c'est vraiment une maison où on ressent que il s'est passé beaucoup de choses sur le plan artistique et aussi sur le plan, puisque Georges Sand a été aussi une militante à son époque, une militante de la cause des femmes, une militante, militante politique aussi. Donc il y a eu énormément d'acteurs politiques de l'époque qui sont venus autour de cette table, cette salle à manger. Et ce qui est formidable dans cette maison, c'est qu'à travers les pièces qui ont conservé le mobilier de l'époque, qui ont conservé l'atmosphère de l'époque, on a l'impression qu'on va tomber sur Georges Sand
au détour d'une pièce. Voilà, ou d'un chemin. Voilà. Et coup de cœur touristique en Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude.
Alors j'ai pensé à... Peut-être à la ville de Sète, que j'ai découvert récemment et que je ne connaissais pas du tout. Et j'étais vraiment séduit par la situation de cette ville, cette situation, sorte d'îlot comme ça entre l'étang du Thau et la Méditerranée. C'est un site vraiment exceptionnel. Et ce qui m'a beaucoup séduit aussi dans cette ville, c'est l'impression de ne pas être dans une ville artificielle, purement touristique, comme un certain nombre de petites villes balnéaires ou de petites villes de bord de mer, de ces petites villes peuvent ressembler aujourd'hui à des petites villes qui n'ont plus qu'une fonction, en fait, c'est l'accueil du tourisme. Donc c'est vrai qu'à Sète, je trouve séduisant, c'est qu'il y a encore c'est encore un port de pêche, c'est encore, il y a finalement ce mélange entre un port de pêche
classique
et à la fois aussi une petite ville touristique, puisque il y a quand même un gros travail qui est fait aussi pour en faire aussi une ville accueillante pour le tourisme. Et puis donc avec des points de vue magnifiques quand on est sur le Mont Saint-Clair, à la fois sur l'étang du Thau, à la fois sur la Méditerranée. Et puis c'est aussi une ville que j'ai trouvé que j'ai trouvé dynamique sur le plan culturel.
Ah oui, il y a plein de choses.
Avec la rénovation récente là du théâtre Molière, qui a été complètement rénové, un magnifique théâtre dans la ville de Sète, même étonnant, qui est ce superbe théâtre classique du 19e. Et donc, c'est vrai que c'était une belle découverte pour moi.
Enfin, coup de cœur touristique dans l'Aude, hormis le pays carcassonnais.
Alors là, donc c'était le village de la Grâce et l'abbaye de la Grâce.
Ah, ça revient très souvent. Mais c'est normal que vous arrivez.
Voilà. Alors peut-être aussi, c'est vrai que j'ai pas eu encore depuis mon arrivée beaucoup le temps de découvrir, de sillonner le département. Et c'est vrai que j'ai pu voir la Grâce et cette abbaye. J'étais très séduit aussi par la disposition de ce village, l'orbieu qui sépare le village et l'abbaye, ce pont qui relie le village avec l'abbaye, et puis cette abbaye avec cette pierre un peu rose, en fait, qui est vraiment
une très belle lumière,
très belle lumière sur cette pierre, qui joue très bien, lumière joue très bien avec cette pierre, et avec ces deux parties très intéressantes, entre la partie que gère le conseil général de l'ancien palais abbatial, quoi, l'ancien bâtiment abbatial, et puis le monastère qui est aujourd'hui occupé par la communauté des chanoines qui font vivre aussi cette vie monastique dans ce lieu. Je trouvais que c'était un lieu dans ce village, où on se sent bien, où on se sent...
Ouais, c'est vrai. C'est... Et puis pour finir, le coup de cœur en pays carcassonnais. Alors bon, vous n'allez pas nous épater, je pense.
Non, alors là, évidemment, je ne peux pas dire autre chose que la cité, évidemment. Puisque, comme je vous disais, c'est vrai que pour moi, c'était aussi une découverte, cette cité. Et puis je suis toujours émerveillé quand à toute heure de la journée, quand le matin quand je prends, puisque j'habite dans la Bastille, donc quand je traverse l'Aude et que je vois ces remparts et avec des jeux de lumière complètement différent.
Ah oui, selon la saison,
Pour moi, cette cité, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment unique. C'est vrai que c'est la plus grande cité fortifiée d'Europe, avec ses 38 tours de remparts, et puis dans un tel état de restauration, évidemment. Restauration sur laquelle on peut discuter, la restauration de Viollet-le-Duc, mais qui lui donne aussi son identité aujourd'hui.
Et puis elle a été conservée grâce à lui, on peut débattre des toits, mais enfin du moins il nous l'a gardée.
Et il y a toujours quelque chose à découvrir, parce que c'est vrai qu'il y a cette cité, elle est tellement grande que moi je découvre encore, 3 mois après, je découvre encore tout le temps quelque chose, ou un détail de décor. Et aussi, c'est vrai que je voudrais pas oublier la basilique Saint-Nazaire à l'intérieur de la cité, avec ses vitraux pour moi qui sont vraiment, vraiment admirables.
Moi je suis encore
séduit par le monument.
Oui, puis je crois qu'on ne se lasse pas, même pour les gens qui sont arrivés il y a quelques années, je crois qu'on ne se lasse pas de regarder la cité à tout moment de la journée et de la saison. Merci Edouard, on serait resté plus longtemps avec vous, mais on va quand même rendre l'antenne. Et puis, chers auditeurs, le mois prochain, nous changerons et nous parlerons des Ampélopholis du Cabardès et donc du marché, des marchés aux truffes, avec Madame Micoulot de l'association des Ampélopholis. Une bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir.